Bonjour, chers écouteurs.
Une semaine toute spirituelle. Aujourd'hui, Judas, notre frère.
Maître, puis-je te parler ?
Quel est ton nom, mon fils ?
Je me nomme Judas l'Iscariote. Mais as-tu besoin d'un homme tel que moi ?
L'Église catholique, pendant la veillée pascale, en appelle en une longue litanie à tous les saints, vous tous, les apôtres et les évangélistes. Vous tous, les disciples du Christ, priez pour nous. Judas n'en est pas, il est resté sur le bord du chemin. Son prénom, qui était des plus usités, a disparu. Son image a renforcé l'hostilité aux Juifs, et accessoirement, aux roues, car il est présenté comme roue. En réalité, les épîtres de Paul, les premiers écrits du Nouveau Testament, l'ont ignoré. C'est le dernier en date des évangiles, celui de Jean, qui peint l'homme roux tout en noir. Mais Matthieu lui faisait déjà le pire des reproches. Son désespoir l'aurait conduit au suicide, la faute irrémissible. Toute une tradition hostile insista donc sur la malédiction de Judas. Cependant, un courant souterrain chemina toujours qui en faisait un modèle d'humanité. C'était sa faiblesse même qu'il avait fait distinguer par Jésus. On vient de retrouver un évangile tardif du milieu du IIe siècle que des Coptes d'Égypte lui dédièrent, expliquant que c'était par lui que passait le vrai message. Aujourd'hui, notre monde, centré davantage sur l'homme, éprouve au moins de la tendresse pour Judas. « Qui suis-je pour juger ?» a dit Benoît XVI à propos de Judas. Judas, notre frère, à qui un combat a un rôle bien difficile pour un homme.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec François Sureau, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, vous venez de publier chez Salvatore le texte de deux pièces, vous dites deux mystères évangéliques, dont l'un est largement consacré à Pilate et à Judas, et l'autre au centurion dont le serviteur malade fut guéri, ressuscité par Jésus. Judas, il a inspiré beaucoup d'écrivains, c'est au titre d'écrivain que je vous reçois aujourd'hui, de Baudelaire à Nerval, de Claudel à Pagnol. Mais la question centrale qu'on va essayer de démêler avec vous, c'est celle de la destinée, qui irrigue d'ailleurs un peu tous vos livres. Vous avez fait il y a quelques années un livre sur Ignace de Loyola et vous disiez « Ignace, c'est un homme, le fondateur des Jésuites, qui a compris à travers des épreuves quelle était sa destinée ». On pourrait dire la même chose de Judas.
On peut dire la même chose de Judas parce que, au fond, Judas pose la question qui a été traitée par les plus grands auteurs depuis les débuts de la révélation chrétienne du rapport entre la liberté individuelle et le dessein de Dieu. Et c'est même le point nodal de cette question, puisque pour tout un courant de pensée, sans Judas, pas de Christ. C'est-à-dire, si Judas n'est pas là pour trahir, de même que si Pilate n'est pas là pour s'abstenir, il n'y a pas de Christ. Cette vision, c'est une vision qui est plutôt en effet celle du romancier. C'est plutôt une vision d'écrivain. Ça n'est pas la vision traditionnelle de la théologie pour laquelle le dessein de Dieu, en quelque sorte, emporte tout. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu Judas, il y aurait quelque chose d'autre. Mais en tout cas, dès lors qu'il y avait eu l'incarnation, et dès lors qu'il y a la rédemption, et dès lors que tout ceci devait aboutir à la résurrection, au fond, peu importe les comparses. Le mouvement qu'a suivi la conscience est un peu inverse. C'est d'une certaine manière peut-être, on en parlera j'imagine, mais parce que la présentation par la théologie de la passion est insupportable à chaque époque, qu'il a fallu, au fond, trouver une espèce de bouc émissaire qui symbolise toutes les ambiguïtés de notre condition. Et ce bouc émissaire, c'est la figure de Judas.
Et organisé peu à peu dans la réflexion du christianisme, la vie de Judas avant le moment nodal de la passion. Un film sort mercredi qui s'intitule « L'histoire de Judas », qui est l'œuvre d'un cinéaste franco-algérien, Rabah Hammer Zeymech, et il fait intervenir Judas dès la tentation au désert. Il y a une montagne ronde comme un ventre et Judas vient chercher Jésus après son passage au désert. En fait, Judas, il n'apparaît clairement dans les évangiles successifs que beaucoup plus tard et sous un nom qui est sujet d'ailleurs à beaucoup d'interprétations, Judas Iscariote.
Alors tout le monde s'est posé la question et cette notion de Judas Iscariote qui passe pour assez naturelle aux gens. Ce mot est un mystère. Globalement, il y a trois interprétations classiques. La première interprétation consiste à dire que Judas venait d'une ville qui est située en Juda précisément et qui s'appelle Kériot. Personne ne sait si c'est vrai. La deuxième se fonde sur une interprétation un peu exagérée de l'araméen et de la racine sicariote qui ensuite a donné sicaire et qui veut dire en réalité l'émissaire et qui était un l'homme de main. Et qui était un surnom qui était employé pour qualifier les zélotes de l'époque, une secte particulière, à laquelle les gens qui en tiennent pour cette interprétation pensent que Judas appartenait. Et puis, le troisième élément, et ceci ouvre un abîme de réflexion, c'est l'Issacar, c'est-à-dire l'homme du salaire, selon les premiers pères grecs, repris ensuite par Saint Jérôme. Et là, tout de suite, avec ce mot, l'homme du salaire, on tombe dans une idée fondamentale qui est... Il y a plusieurs manières de lire l'écriture. Il y a une, comme on sait, hein, il y a une manière historique, il y a une manière exégétique, il y a une manière morale, il y a une manière théologique. Puis il y a une manière allégorique qui est très employée par les pères grecs. Et les pères grecs, en réalité, excellent à discerner derrière des figures, pour certaines plus ou moins légendaires, comme les rois mages, par exemple, les vérités profondes qui, à chaque époque, sont dites par Dieu au travers de la méditation du texte évangélique. Et sous ce rapport, Judas ne serait que l'une des figures possibles de tout ce qui aboutit à détourner l'humanité de Dieu. Mais ce qui aboutit à détourner l'humanité de Dieu, c'est aussi ce qui provoque la passion, la résurrection et le salut, selon la règle classique qu'on dit d'ailleurs dans les lectures du Vendredi Saint, c'est « bienheureux péché qui nous a valu un tel rédempteur ».
Alors, au nom de cette construction... Jean, le dernier évangéliste, du premier siècle, va introduire Judas assez tôt dans le récit de la Passion. Nous sommes à Béthanie. Vous dites l'évangile, c'est des compositions géographiques. Le panorama de Béthanie, c'est une cour avec des murs croulants. Ouais. On entend dans le film de Pasolini la flûte du berger au loin.
Alors ça, c'est très important. Vous savez qu'Ignace, dans ses exercices, recommande un exercice qui s'appelle la composition de lieux. À l'inverse d'ailleurs de toute la tradition orientale et orthodoxe qui est très très opposée à la visualisation des images, ce qui est assez curieux d'ailleurs s'agissant de gens qui aiment bien les icônes, mais pour des raisons différentes, Ignace recommande la composition de lieux, c'est-à-dire pense que le texte évangélique ne peut pas produire de résonance si on n'imagine pas les lieux, les arbres, les bruits, les personnes. Et ce faisant, Ignace est dans le droit fil d'une tradition tout à fait caractéristique qui est que pour un chrétien, à mon sens, l'évangile n'est pas un texte sacré. L'évangile est une collection de textes, d'ailleurs partiellement contradictoires entre eux, repris des années après par des gens différents, pour des publics différents sur la base d'une source commune. Mais l'évangile propose simplement une représentation de ce qu'a été la vie du Christ, représentation en quelque sorte kaléidoscopique, et qui doit intéresser tous les sens, l'ouïe, le regard, le souvenir, la mémoire, et ne pas être une... C'est pour ça d'ailleurs que, d'une certaine manière, c'est pour ça que le christianisme a permis, si je puis dire, des réalisations culturelles absolument gigantesques, parce qu'elles sont incluses dans sa manière propre de voir un texte qui n'est pas un texte fondamentalement sacré.
Puisque vous parlez de sens, imaginez la tente au-dessus de la cour avec le vent qui l'a fait flotter. Marie de Béthanie, la sœur de Lazare qui vient d'être ressuscitée, oint, l'odeur est parfaite, de parfum cher, les pieds de Jésus.
Elle verse ce parfum sur mon corps comme elle le ferait en vue de ma sépulture.
À quoi sert un tel gaspillage? Nous pouvions vendre cet amphore et son contenu pour de l'argent et le donner aux pauvres.
Pourquoi la molester et la rabrouer de la sorte? Elle a fait une belle action le versant sur moi. Car des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous, alors que moi, vous ne m'aurez pas toujours. En vérité, je vous le dis, dans le monde où va être répandu cet évangile, il sera rappelé, redit aussi à sa mémoire ce qu'elle vient à l'instant de faire.
Alors, le film de Pasolini, dont voici un extrait, est intitulé « L'évangile selon saint Matthieu ». L'évangile selon saint Matthieu, c'est l'évangile fondateur, organisateur pour la tradition de l'Église. Mais le rôle qu'on vient d'entendre de Judas, le trésorier qui reproche qu'on ait dépensé trop d'argent, 300 deniers peut-être, ça c'est une interprétation de Jean. Je répète, l'évangile le plus tardif.
Ça ne se trouve que chez Jean. Alors, c'est d'ailleurs très intéressant parce que quand on combine les évangiles, on se rend compte qu'il y a des professions et des attitudes qui sont absolument réprouvées par le Christ. Et c'est d'ailleurs pas absolument celle qu'on attend. Les prostituées ne sont pas réprouvées par le Christ, comme on sait. Les percepteurs ne sont pas réprouvés par le Christ. Les soldats ne sont pas réprouvés par le Christ. Les juges le sont. Les prêtres le sont, de manière radicale. Et là... La condamnation qui est portée de manière radicale à travers Judas, c'est la condamnation de ce qu'on appelle la charité dans le sens le plus 19e-iste du terme. C'est une condamnation absolument radicale. C'est l'idée de dire que, oui, c'est bien en théorie de prendre l'argent pour le donner aux pauvres, mais ça ne procède pas de l'intention louable.
Mais Jean nous figure, Judas quand même assez précisément, avec une tablette en longueur, pas vraiment avec une bourse, et dans cette boîte longue, il conserve les contributions des uns et des autres, des dames galinéennes ou des sectateurs de Jésus pour la vie du groupe.
Alors, c'est quand on regarde les différents évangiles, la figure de Judas apparaît différemment. Là où elle apparaît le plus, c'est dans Matthieu. Elle apparaît dans Jean à cette occasion-là, et puis à la fin, quand le démon entre en Judas pour qu'il livre le Christ. Et il faut voir dès l'origine que chacun des évangiles est écrit par des gens différents, avec un soubassement intellectuel différent, et s'adresse à des publics différents. Et donc, par exemple, il n'y a pas de Judas dans l'évangile, où il y a peu de Judas. J'essaie de ne pas dire une bêtise exégétique, mais dans l'évangile de Marc, qui était le mieux fait pour l'accueillir. Parce que l'évangile de Marc est un évangile très archaïque, si je puis dire, dans lequel la présence démoniaque est présente du début à la fin, et dans lequel il aurait été tout à fait normal de mettre Judas comme l'un des agents du démon. Curieusement, ce n'est pas Marc qui fait ça, mais plutôt Jean, dont l'évangile, beaucoup plus métaphysique, n'inclut pas volontiers ces manifestations démoniaques surextraordinaires.
À partir de quand Satan entre-t-il dans les textes, dans le corps et l'esprit de Judas ? Et peut-on parler de trahison ? Vous avez dit, fort judicieusement, François Sureau, que Judas livrait Jésus. Voici Pasolini, Évangile selon saint Matthieu, c'est le titre générique du film, ça ne correspond pas nécessairement à la lettre de l'Évangile de Matthieu. La scène, le banquet, où Jésus réunit ses disciples et va instituer l'Eucharistie.
En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Serait-ce moi, Seigneur ?
Serais-je celui-là, Seigneur ?
Serais-je celui-là, Seigneur ?
Serais-je celui-là, Seigneur ?
Serais-je celui-là, Seigneur ?
Celui qui a mis la main au plat avec moi, voilà qui me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va, comme les Écritures l'ont dit. Malheur cette fois à l'homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. Il eût été beaucoup mieux pour lui de n'avoir jamais vu le jour.
Rabbi, serais-je dans celui-là ?
Tu l'as dit. Prenez et mangez, puisque ceci est mon corps.
Rabbi, c'est un terme que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, un peu avant, avait recommandé de ne pas utiliser à son usage. Et alors le mot « trahison ». Puisque vous parliez araméen tout à l'heure, François Sureau, vous pourriez peut-être parler grec.
Oui.
Paradidonai.
Absolument, ce qui signifie plutôt remettre.
C'est pas trahir.
C'est pas trahir, c'est remettre ou livrer. Je vais revenir quand même, en ayant réécouté ce qui vient de... C'est quand même quelque chose d'assez fascinant qu'on oublie, quoi. À chaque fois qu'on réécoute l'évangile, même mis en scène de cette manière, on est absolument frappé par son caractère totalement dérangeant. Ce qui est frappant dans cette affaire, dans cette scène d'une incroyable violence, c'est que personne ne sait qui sera Judas. C'est une scène absolument centrale. En réalité, il n'y a pas un Judas, il semble n'y avoir pas de Judas prévu de toute éternité, au moins dans la conscience des hommes, qui là, alors qu'ils sont réunis à 12 au moment de la scène, ne savent pas celui par lequel le dessein de Dieu va s'accomplir. Et ça, c'est absolument phénoménal. C'est l'un des usages, encore une fois, le texte chrétien n'est pas un texte, sauf pour les exégètes, qui est destiné, en tout cas spirituellement, à être pris dans sa lettre littérale, mais qui a une fonction, et qui a une fonction de salut. C'est comme ça que Ignace, en particulier, le voyait. Et là, la fonction de salut, elle est tout à fait claire. Judas, ça peut être n'importe qui, à n'importe quel moment. Et c'est ainsi que Saint Jean Climac, en particulier, disait que l'une des meilleures manières de lutter contre l'orgueil était de se répéter l'idée suivante. Souviens-toi, Judas était l'un des 12, et le bon larron est entré le premier au ciel. Et là, on voit fonctionner ça dans l'évangile avec une espèce d'explosion, si je puis dire, de la figure de Judas sur la totalité de l'humanité. Nous sommes chacun des Judas possibles.
Et imprévisibilité. Et du coup, la variabilité de la notion de trahison. Exactement. Livrer, remettre, c'est pas exactement.
Remettre. D'une certaine manière, ça n'a pas grande importance puisque on ne peut pas trahir le Dieu de l'incarnation. Rien n'échappe à son dessein bienveillant pour les hommes. Et c'est là où se noue le côté tragique de la figure de ce Judas qui est chacun d'entre nous.
De mystère évangélique, c'est le texte de vos deux dernières pièces, François Sureau, chez Salvatore. Il y a beaucoup d'écrivains qui se sont intéressés à Judas. Quantité de chanteurs aussi ont chanté Judas. Alors, on pourrait vous mettre une voix de basse dans la Passion de selon saint Matthieu. On va vous passer plutôt Lady Gaga. Ce morceau de 2011 n'est au fond qu'une adaptation à sa manière d'une chanteuse qui vous est davantage familière, Lucienne Delisle, 1953.
Judas, tout comme Judas, tu as vécu près de moi en cachant au fond de toi la trahison et la haine. Baiser de Judas, ta lèvre donne un frisson, dissimulant le poison, poison dont ton âme est pleine. Judas, je pleure de t'aimer quand même, bien que tu m'aies fait souffrir, quand je te verrai partir, je vais peut-être.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Judas.
Voici que vint Judas, un des 12, et avec lui une foule nombreuse avec des glaives et des bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. »
C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme.
Tu nous as été d'une aide précieuse, Judas. Viens donc voir quand tout sera terminé.
Nous en venons avec vous, François Sureau, au... interprétations différentes de Judas, et d'abord il faut qu'on parle de la procédure qui va suivre l'arrestation, parce que vous êtes non seulement un immense écrivain, oui, cite Fleur Pellerin qui s'y connaît, mais aussi un grand avocat au Conseil d'État et à la Cour de Casse. Comment ça se passe?
Comment ça se passe au Conseil d'État? Oui.
Non, au Sanhédrin et chez le procurateur Ponce Pilate.
Je voudrais faire un petit... Non, je vais d'abord vous parler de la procédure, puis après je ferai...
Oui, parler d'abord de la procédure.
Mais
oui,
une sorte de postface. Comment ça se passe? La question juridique est assez simple. Elle a alimenté les procès, en antisémitisme chrétien, enfin de l'antisémitisme chrétien, comme les procès inverses, tendant à montrer que la population et ses prêtres n'y sont pour rien et que la faute est entièrement une faute romaine, une sorte de faute coloniale. Ces deux interprétations sont évidemment absurdes. La première plus absurde que la seconde d'ailleurs, mais globalement, il y a deux possibilités d'inculpation. Il y a la première, qui est le blasphème, se mettre à la place de Dieu, coupable de lapidation dans certaines circonstances de température et de pression juridique, dont il semble qu'elle n'était pas totalement réunie d'ailleurs au moment où le Sanhédrin pouvait statuer, en dehors du fait qu'il y a des débats pour savoir s'il était licite pour le Sanhédrin de se réunir la nuit, enfin, vous savez, des choses procédurales comme ça. Et puis, il y a la deuxième hypothèse, qui est une deuxième cause de mort éventuelle, celle-là du fait de l'autorité romaine et la crucifixion. Jésus est mort, tué formellement, juridiquement, par l'autorité romaine. La crucifixion est un supplice romain, contrairement à la lapidation pour blasphème. Et là, c'est pour appel à la sédition, exciter le peuple contre le gouvernement de Rome, se prétendre le Messie au sens terrestre du terme, c'est-à-dire susceptible de se substituer à la domination romaine. Et en réalité, les prêtres de l'époque ont choisi de renvoyer sous le délit de sédition à Pilate, qui s'est bien trouvé obligé de juger. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, en réalité, le message de la passion est inaudible à toute époque. Et parce qu'il est inaudible à toute époque, on essaie de lui trouver des solutions qui sont à notre portée intellectuelle. L'une des solutions, c'est la procédure. On étudie la procédure et on reconstitue comment ça s'est passé, comme si on était dans une cour d'assises. Et l'autre solution, c'est d'insister sur le rôle technique des acteurs. Judas, sans lequel rien ne se serait produit, Pilate, sans lequel rien ne se serait produit, et ainsi de suite. Ces deux éléments justifient la fortune des œuvres littéraires, de manière générale, consacrées soit au procès de Jésus, soit à la figure de Pilate, soit à la figure de Judas. Et pourquoi ? Parce que le sens profond de la passion et de la mort nous demeure absolument mystérieux. Il y a en réalité trois hypothèses. Aucune de ces trois hypothèses n'est de nature à satisfaire l'homme, ni l'homme moderne, ni l'homme de tous les temps. C'est en cela où l'Évangile continue d'être un texte révolutionnaire. La première hypothèse, c'est que tout ça a été écrit d'avance. Donc pourquoi se soucier de procédure et de Pilate et de Judas ? C'est évidemment insupportable à l'homme qui n'imagine pas pouvoir être privé de son libre arbitre. La deuxième hypothèse, c'est de dire, en réalité... ça, c'est l'hypothèse de type Joseph Moins. Ce qui est à l'œuvre, théologien jésuite contemporain, ce qui est à l'œuvre dans la passion, c'est en réalité que le sauveur du monde, c'est-à-dire ce qu'il y a de Dieu présent sur la terre, est en permanence sacrifié par le ressentiment du peuple, le désir des prêtres de confisquer l'action de Dieu et la lâcheté du pouvoir politique. Et ceci s'applique aux prêtres de l'époque comme aux prêtres contemporains.
On a compris que vous aimiez à la fois les prêtres et les hommes politiques. Et la troisième interprétation ?
Voilà. Et la troisième interprétation, plus lénifiante, mais qui aboutit au même résultat, c'est de dire, au fond, c'est une histoire tragique et qui, comme telle, est insupportable, parce que tout le monde a essayé de faire le bien. Après tout, les prêtres essayaient de sauver ce qui pouvait être sauvé de la loi de Moïse sous occupation étrangère, et c'est plutôt mieux que les barbares païens qui égorgeaient des bœufs le soir dans les catacombes. Quant à Pilate, fonctionnaire colonial raisonnable, il voulait éviter une effusion de sang, et après tout, c'était son travail. Et quant à Judas lui-même, vous savez qu'une des hypothèses souvent avancées sur la base de l'évangile de Judas, de l'évangile apocryphe, c'est l'hypothèse de Pierre le Chantre, qui était un cistercien du XIIe siècle, qui était, comme avant lui, Saint Bruno de Cologne, doyen du chapitre de chanoines de Reims, et qui prétendait qu'en réalité, c'était pas vraiment la faute de Judas, parce qu'il avait touché les 30 deniers pour nourrir sa famille.
Mais il y a une interprétation dans la littérature, vous parlez du rôle des écrivains dans la construction du personnage, qui est beaucoup plus favorable à Judas, Gérard de Nerval. Jésus dit « Hâte-toi de me vendre et finis ce marché, viens, ô toi, qui du moins, à la force du crime, lui répond Jésus. » Judas devient un homme fort, comme dans le film de Scorsese.
« Judas, mon frère, tu es le plus fort de tous mes compagnons. Tu es le plus fort. J'ai quelque chose à te dire. Dieu m'a confié un terrible secret. Je dois mourir sur la croix.
Je ne te laisserai pas mourir.
Tu n'as pas le choix. Moi non plus. N'oublie pas que nous devons réunir l'homme et Dieu. Ils ne seront jamais réunis sans que je meure. Je suis le sacrifice. Sans toi, Judas, il ne peut y avoir de rédemption. Oublie tout le reste. Tu comprends ?
Non, je ne peux pas. Trouve quelqu'un de plus fort.
Tu m'avais promis. Souviens-toi, tu m'as dit une fois que si je m'écartais d'un cheveu de la révolution, tu me tuerais. Tu te souviens ?
Oui.
Je m'en suis écarté, n'est-ce pas ?
Oui.
Tu dois mettre ta menace à exécution, tu dois me tuer.
Mais si Dieu l'exige qu'il le fasse lui-même, je refuse.
Il le fera, à travers toi.
Judas, l'homme fort, c'est comme ça que vous le présentez, vous, dans votre mystère évangélique qui vient de paraître François sur Rocher. Salvatore, vous imaginez une scène entre Pilate et Judas, et Judas dit à Pilate à peu près la même chose que le Judas de Scorsese Oui, c'est a dit à Jésus.
C'est le choc de deux mondes. C'est-à-dire que c'est parmi les interprétations qu'on peut avoir, il y a un Judas conscient de sa mission. Et un Judas conscient de sa mission qui, en réalité, oppose à toutes les raisons habiles et froidement politiques de Pilate le sens d'une mission prophétique, quasiment eschatologique, qui a trait à la rédemption du monde, aux fins dernières, que Pilate n'est évidemment pas capable d'entendre. Ce que j'en écris est moins intéressant que ce qu'on entend chez Scorsese, et qui est tout à fait intéressant, parce que dans mon texte, c'est Pilate qui parle à Judas, alors que là, c'est Judas qui parle à Jésus. Et quand on entend Scorsese, on se rend compte que l'ambiguïté de la figure de Judas renvoie plus profondément à quelque chose qui est depuis toujours un mystère pour le christianisme. C'est que dans le Christ, Dieu fait homme, quelle est la part de l'homme et quelle est la part de Dieu? C'est-à-dire que sait-il lui-même à chaque instant des conséquences des actes de Judas, de ce qui lui arrivera, de sa passion? C'est pas simplement une question que ressent-il de sa douleur physique, mais que sait-il lui-même Jésus en tant que Dieu incarné, c'est-à-dire en tant qu'homme, vrai homme et vrai Dieu, comme dit la liturgie, que sait-il du dessein divin lui-même auquel Judas collabore? Ce mystère insondable a évidemment comme élément central la figure du Christ et comme élément périphérique la figure de Jésus, ce qu'on voit très bien fonctionner dans le dialogue avec Scorsese.
Eh bien, je mets dans le pot commun une pièce peu connue de Claude-André Puget qui date du lendemain de la guerre et où Paul Meurice, vous aimez bien Paul Meurice comme Lucien de Lille, est devant le Christ qui souffre sur sa croix, la part de l'humanité et la part de la divinité chez le Christ.
Eh ben non, faut l'aider. Lui expliquer que dans son mélange de Dieu et d'homme, il a laissé entrer trop d'hommes. La condition humaine, ça pourrit tout, même lui, c'est effrayant. Alors le voilà qui pleure à présent, qui crie, qui appelle au secours. Au secours qui? Au secours mon père. Au secours Dieu. Il s'appelle au secours lui-même. Mais comment voulez-vous qu'il s'entende, puisqu'il oublie de plus en plus qu'il est Dieu tellement il s'est fait homme? Eh ben non! Moi je veux qu'il continue!
Bon, c'est pas le tout de vouloir, remarquez, mais...
Je veux qu'il continue, et cette fois, oui, je crois, cette fois, les hommes seront sauvés.
Ah, les hommes seront sauvés.
Il n'y aura plus de malheureux, plus de méchants.
Ah, ça, c'est moins sûr, ça, puis s'il n'y a plus de méchants, comment est-ce qu'on reconnaîtra les bons?
Ah, rien, tout le monde sera heureux. Il n'y aura plus de putain, plus de voleurs. Les brigands iront par les chemins recueillir et soigner les lépreux. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y aura même plus de lépreux.
Et pour tout ça, vous disiez?
Faut l'aider.
Alors trouvez un truc, mon bon ami, comme vous dites.
Il faut qu'il redevienne Dieu. Il faut mettre le Dieu qu'il est au pied du mur. Tellement au pied du mur qu'il ne puisse plus reculer. Qu'il n'ait pas d'autre solution que de montrer le Dieu qui est en lui. L'homme s'efface. C'est ça qu'il faut faire.
Ça me paraît très simple.
Ah, c'est très simple, il faut un miracle.
C'est bien ce que je dis.
Et pas un miracle ordinaire.
Puis soit non.
Le miracle des miracles, celui que personne ne peut discuter. Vous saisissez?
Très bien.
Et ce sera gagné, parce qu'il sera le Dieu de tout un chacun. Il faut que mon ami Jésus disparaisse. Et voilà que c'est moi que ça regarde à présent.
Donc à la personne de Judas, selon les époques, se mesure la conception qu'on a du Christ, la part d'homme chez l'homme Jésus et la part de Dieu.
On voit là d'ailleurs fonctionner une conception des plus étranges, qui est l'idée que l'avènement, ce que le Christ appelle le royaume dans les évangiles, se traduirait par la disparition des lépreux, les mendiants qui vont sur les chemins soigner les pauvres gens, etc. Ce qui est complètement contraire à l'idée évangélique et qui, à ce moment-là, suppose en effet pour s'accomplir quelque chose qui nous est présenté comme le miracle des miracles, incontestable, et qui est la chose contestable par excellence, c'est-à-dire la résurrection d'un mort, qui est évidemment la chose à quoi personne censé ne peut raisonnablement croire. Et par rapport à cette vision occidentale tout à fait délirante, je dois dire que je préfère, même si c'est un texte gnostique, le soubassement...
La gnose, c'est ceux qui connaissent.
Voilà, le soubassement...
Je dis ça en confidence aux auditeurs.
Le soubassement de l'évangile selon Judas, qui est un apocryphe chrétien du IIe siècle, et qui lui présente un Judas qui est d'une certaine manière tout aussi partiellement ignorant de sa mission propre que le Christ lui-même, mais introduit par la divinité de Jésus dans le mystère du dessein amoureux de Dieu pour les hommes, auquel il ne comprend rien et auquel il collabore volontiers par une espèce d'amitié tragique dont les échos s'entendent encore jusqu'à nous.
On finit par l'Égypte qui vous est familière, François Sureau de Mystère évangélique chez Salvator. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Guillaume Roux.